On a déjà au téléphone notre invité, Arlette. Oui. Anouk Lanouette Turgeon, qui est co-responsable de parents jusqu'au bout.
Bonjour, madame.
Bonjour, madame Turgeon.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Ça va bien.
Merci pour l'invitation.
Oui, ça c'est la moindre des choses parce que c'est un cas. Vous vivez mes condoléances encore. Oui.
Merci.
On voit, vous êtes co-responsable de la fondation, de ce regroupement de dames, de femmes qui sont, qui vivent avec des enfants handicapés et lourdement handicapés, on peut le dire.
Oui, j'ai vu dessus, oui.
Pardon. En fait, c'est un regroupement de parents.
De parents.
Donc, il y a des mamans. Ça a été fondé initialement par quatre mamans.
Oui.
Parce que, bon, on peut le dire quand même, c'est souvent la mère qui, si un des deux parents doit arrêter de travailler pour être auprès d'un enfant qui a des soins médicaux complexes, bon, dans la grande majorité, c'est la mère.
Oui.
Toutefois, il y a des pères aussi. On en avait dans nos, justement, là, dans les membres qui nous suivaient de près avec parents jusqu'au bout. Je parle au passé parce que notre principal combat a été mené il y a quelques années.
Oui.
On est encore actifs, mais ça s'est joué plus au début là, de la création du regroupement, c'est-à-dire en 2015-2016.
Oui.
On a obtenu la création du supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels.
Oui, oui, oui. En 2016, c'est ce que j'ai trouvé dans la documentation. Arlette, ma
collègue.
C'est-à-dire,
pardon, excusez-moi. C'est-à-dire parce que là, cette association, elle a été faite parce que justement, les parents, par rapport aux familles qui pour les familles pardon par rapport aux associations aux personnes qui gardaient des enfants handicapés pour les autres, il y avait une différence financière, c'est ça?
Oui, en fait, ça a été ça notre principal argument. Puis quand on l'a constaté nous-mêmes en faisant nos recherches, on a été très étonnés de voir que par exemple, les familles d'accueil, les familles qui vont
accepter... famille d'accueil, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, excusez-moi.
Oui. Les familles, justement, qui vont se porter volontaires, en tout cas, pour prendre soin des d'enfants qui sont qui doivent être sortis de leur famille pour différentes raisons. Dans le cas d'enfants avec des besoins très complexes, avec des soins médicaux lourds, les familles d'accueil vont avoir jusqu'à un maximum de 40 à 50 000 $ par année. Et je ne veux pas diminuer le travail de ces familles-là, qui est phénoménal, mais effectivement, l'écart avec les familles naturelles nous semblait complètement inacceptable.
Oui.
Et c'est ce qu'on a mis de l'avant.
Et ça a été réglé?
Pas pour toutes les familles, parce que ce qui a été créé, donc le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels,
d'accord,
c'est vraiment pour les enfants très, très lourdement
handicapés,
atteints, qui ont des besoins vraiment lourds. Mais cela dit, donc ça a été ça le premier acquis, là, disons la première avancée, puis... Après, on a fait une deuxième ronde de mobilisation, revendication pour demander qu'il y ait des paliers intermédiaires, des prestations intermédiaires qui soient créées aussi pour les enfants qui présentent des handicaps, des incapacités, mais moins lourds, mais qui quand même, comme je dis souvent, ça handicape toute la famille, en fait. C'est pas juste une question de lourdeur.
Oui.
Un enfant peut être moyennement, disons, handicapé sur papier, mais dans les faits, ça change la vie de toute la famille, ça change, il y a des suivis médicaux quand même, des suivis en réadaptation, il y a toutes sortes de d'enjeux au quotidien qui font que en termes de finances, ça change complètement le tableau familial. Donc c'est ça. Maintenant, il y a en fait deux paliers maintenant. Donc pour les enfants, disons, très sévèrement handicapés, puis ceux qui le sont de façon plus modérée, mais bon. Pour les critères, là, honnêtement, on n'a pas été vraiment consultés. C'est les équipes médicales du ministère de la Santé là, qui ont déterminé tout ça, parce que moi, je m'y serais perdue. Là. Je me considérais pas en mesure de tracer la ligne, tu sais, qui est moyennement, lourdement handicapé.
C'est la question que je m'apprête à poser, d'ailleurs. Oui, voilà.
C'était ce que je me demandais. Donc,
qui met les degrés de handicap, quels sont les critères, tout ça. Et puis, mais comment est-ce que vous avez pu mobiliser les autres femmes là, avec vous, là, Geneviève Dion, Marilyn Picard, et puis votre co-responsable.
C'est le contraire qui est arrivé, en fait. C'est elle.
C'est elle. Oui.
Oui. Les cofondatrices de Parents jusqu'au bout, c'est Marilyn Picard et Geneviève Dion.
Oui.
Donc, au départ, c'était ces deux mamans-là. Puis après, il y a eu Marie-Ève Tétrault et moi-même qui nous sommes jointes pour que ça passe d'un duo à un quatuor.
À un quatuor, maintenant, oui.
Donc, ben moi, j'ai vu le jour 1 là, de la création du regroupement, j'ai vu ça apparaître sur Facebook parce que j'étais déjà en lien avec, justement, Marilyn et Geneviève.
Oui.
Donc, j'ai tout de suite applaudi, je les ai encouragés, j'ai pris l'initiative de moi-même contacter les journalistes que je connaissais pour faire connaître le mouvement. Puis bon, je me suis impliquée vraiment, j'ai pris une part active à tout ça dès le début. Mais officiellement, je me suis fait recruter par Geneviève et Marilyn quelques mois après le début de la mobilisation. Puis ça s'est passé assez vite, en fait. Ça a été... À partir du jour 1 de la création de Parents jusqu'au bout jusqu'à la création du supplément ou l'annonce officielle de la création du supplément pour soins exceptionnels, là, il s'est passé 16 mois.
Oui.
Donc, c'est quand même, je dirais un exploit parce que, étant donné nos situations aussi de maman d'enfants à besoins complexes, on n'était jamais capable d'être les quatre ensemble au même moment.
Oui, ça c'est clair.
Il y en avait tout le temps une qui était à l'hôpital avec son enfant ou qui était
mobilisée à la maison,
pour une question familiale. Oui. Puis, mais bon, on s'arrangeait justement, on se répartissait les tâches pour que bon, il y ait toujours quelqu'un qui soit capable de répondre à une demande d'entrevue ou d'aller à une rencontre avec un député. Ou bon, tu sais, on a quand même été très sur beaucoup de fronts en même temps pendant ces mois-là. On n'aurait pas pu maintenir ce rythme pendant des années, je pense. Donc, c'est ça qu'on soulignait aussi, c'est l'urgence. Il n'était pas question d'attendre 10 ans pour qu'il se passe quelque chose. Il y avait déjà un retard. Il y avait déjà beaucoup de familles, justement, qui étaient dans une détresse aiguë depuis longtemps.
Donc, je peux m'imaginer.
Il était temps de crier. Là,
de crier fort sur tous les toits pour que tout le monde nous entende, d'ailleurs. Et vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Bon, avant d'aller de l'avant, de toutes les façons, mais cette différence de somme perçue par les familles d'accueil et puis les familles, les vraies familles, comme si on peut le dire, les parents. Mais comment on pourrait pouvoir avoir une si grande différence comme ça? Pourquoi est-ce que c'était...
C'est la question qu'on posait, en fait, parce que j'ai pas la réponse. Oui. Pourquoi il y aurait une aussi grande disparité?
Si
je comprends que les familles qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas les leurs, effectivement, c'est pour ces familles-là, ça devient un travail, vraiment.
Un emploi.
C'est un travail aussi pour la maman qui s'en occupe.
Donc, c'est ça. Puis il y a toutes sortes d'autres enjeux, évidemment, vous le savez, là, mais les enfants qui doivent être sortis de leur famille par la DPJ pour des raisons de parents inaptes ou qui ont toutes sortes de problématiques qui les rendent incapables de s'occuper de leurs enfants, ça a des impacts effectivement très lourds aussi sur les enfants, donc les enfants qui ont des troubles d'attachement, donc les familles d'accueil qui s'occupent de ces enfants-là, clairement ont un travail titanesque à faire pour que les enfants puissent retrouver une certaine fonctionnalité, une certaine confiance en l'adulte, tout ça. Donc c'est clair qu'il n'y a pas seulement les cas d'enfants handicapé.
Oui.
Mais nous, évidemment, c'était notre situation, donc on mettait ça de l'avant, comme quoi, justement, c'est insensé que nous, nos familles, aient à placer leurs enfants, pas parce que les parents sont inaptes, mais parce que les parents sont juste pas capables financièrement d'arriver à donner, à fournir le minimum à l'enfant, parce que il y a tout un enjeu aussi de comment conserver un travail tes enfants sont hospitalisés, ont des suivis médicaux à chaque semaine. Tu sais, c'est complètement, on a des agendas vraiment de ministres, de quand il faut... on devient les secrétaires de nos enfants, les ergothérapeutes, les infirmières de nos enfants. Donc, c'est très demandant.
Oui.
Donc, c'est ça. C'est un travail vraiment exigeant, mais il y avait cette pensée, dans le fond, qu'on n'aurait pas, nous, à... On devrait pas être payé pour s'occuper de nos enfants, tu sais. Mais c'est pas un salaire, en fait, nous, qu'on demande. C'est juste un minimum de compensation,
pour
les revenus qu'on perd.
Oui.
Parce qu'au niveau du travail, c'est clair que on perd énormément de revenus. Ça se compte en dizaines de milliers de dollars.
Oui.
Il y a énormément de coûts supplémentaires aussi du fait d'avoir un enfant qui a des besoins, besoin d'adaptation de domicile, adaptation de véhicule, thérapie spécialisée, médication parfois non couverte, formule spéciale pour
est-ce qu'on peut les appeler des besoins exceptionnels? Voilà, ça, c'est des besoins qui n'ont rien à voir avec les besoins d'un enfant qui n'est pas du tout handicapé.
Non, c'est ça. Donc, à un moment donné, ça dépasse juste les frais. Bon, tu sais, on veut donner, justement, on veut bien tout donner à nos enfants, mais dans des situations comme ça, même la meilleure des volontés, là, on peut pas. On en a eu des témoignages de familles, justement, qui ont eu à placer leurs enfants avant la création du supplément pour soins exceptionnels, parce que justement, ils étaient dans un cycle infernal de incapable de garder un emploi, puis incapable de fournir financièrement les soins de l'enfant.
Madame Turgeon, quels sont vos rapports avec les autres organismes qui s'occupent des enfants handicapés? Est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous rencontrez? Que vous en parlez? Que vous faites des réunions ensemble? Ou bien comment ça se passe?
En fait, on a eu une collaboration notamment avec l'Étoile de Pachot pour la deuxième ronde de mobilisation pour la création du niveau intermédiaire de prestation du supplément pour enfants nécessitant des soins exceptionnels. Entre autres, justement, ça a été une collaboration pour demander que le supplément soit plus inclusif. Puis l'Étoile de Pachot est un organisme différent, là, dans le sens où c'est davantage un réseau d'entraide pour les parents, mais qui offre des services vraiment essentiels. C'est vraiment un organisme de service aux familles, de jumelage avec des personnes qui font de l'aide à domicile. Il y a des réunions entre parents. Il y a toutes sortes d'activités pour, entre autres, favoriser une meilleure participation sociale des parents. Parce qu'il y a certains organismes d'aide pour les enfants, mais pour les parents, c'est plus rare. Donc, cet organisme-là a vraiment une mission très particulière. De notre côté, jusqu'au bout, bon, on est davantage plus dans la revendication. On n'est pas dans c'est pas un organisme de service. Donc,
de service, oui. Vous êtes beaucoup plus dans la revendication, oui.
Donc, on a trouvé que c'était complémentaire. Donc, oui, ben moi, franchement, je les connais beaucoup, les organismes là qui s'occupent des enfants. Il y a Solidarité de parents de personnes handicapées. Mmh. Il y a la Corporation de l'Espoir. Il y a la Société québécoise de déficience intellectuelle, c'est qui travaille en plus en déficience intellectuelle, justement. Moi, je suis en contact avec tous ces gens-là pour... et bien d'autres aussi, là, récemment, justement, avec Parents jusqu'au bout, on a décidé de soutenir un mouvement qui part de l'Ouest canadien.
Oui, puis, le Plan Institute.
Oui, exactement.
Oui.
Donc, c'est un mouvement qui se veut pan-canadien. Donc, on a décidé de promouvoir cette initiative-là, de la faire connaître. Puis, donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment, par Facebook, par email, par toutes sortes de moyens, là, j'ai... tenter de faire connaître.
Oui, allez-y, parlez de leur webinaire qui arrive, là, qui a commencé depuis le 5 d'ailleurs, et puis il y a du 9, le 26. Rapidement, il nous reste quelques minutes.
En fait, c'est une initiative qui fait suite au discours du trône prononcé par Justin.
Oui.
Qui annonçait la création d'une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap qui serait modelée sur le supplément de revenu garanti qui existe pour les aînés, donc qui correspondrait à un revenu minimum de base pour les personnes handicapées. Alors, on veut s'assurer que cette prestation ne soit pas qu'une promesse en l'air, que ça se concrétise, et on veut que ça se concrétise en déterminant, nous, entre nous, entre personnes concernées par ces situations-là directement, déterminer qu'est-ce qu'on veut que ça soit, cette prestation-là. On ne veut pas juste subir qu'à un moment donné, il y a quelque chose de mis en place, mais on veut relever le défi de s'entendre entre nous sur qu'est-ce que ça doit être, cette chose-là, qui doit être inclus. Donc, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de créer notre propre table de discussion entre nous pour déterminer notamment ce que cette prestation-là devrait être, mais quelles autres priorités aussi on peut avoir en termes de revendications pour ne pas, encore une fois, quémander une place à la table des décideurs, mais plutôt créer notre propre table et les inviter ensuite à connaître nos objectifs et nos exigences. Voilà.
Donc, les 5 webinaires qui ont commencé d'ailleurs depuis le 5 novembre, le jeudi 12 aussi, le 19 et le 26, c'est sur la page Facebook.
Passionnant, notamment le design inclusif, les nouvelles formes d'engagement démocratique, comment travailler ensemble et comment collaborer même avec l'ennemi.
Oui.
donc, c'est des outils en fait qu'on veut se donner qui dépassent là, l'idée de en fait, qui dépassent les préoccupations qui sont celles des personnes en situation de handicap, mais on voit un peu plus large au niveau du changement social, comment s'assurer d'implanter des changements durables, puis quels sont les meilleurs outils pour y arriver. Donc, tous les invités, tous les conférenciers invités sont des gens qui sont au sommet de leur art là, dans leur domaine. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer.
Voilà. Merci beaucoup.
Outils inclus.
Voilà. Merci beaucoup, Mme Turgeon.
Bon courage pour la suite.
Beaucoup de courage pour la suite. Et puis, pour vous joindre, vous avez un site web, parents jusqu'au bout en un seul mot.com.
Ça se trouve très facilement.
Très facilement. Vous avez une page Facebook aussi, facebook.com/parents-jusqu'au-bout. Et puis, pour assister au webinaire de Plant Institute Plan, oui, c'est facebook.com/Plant Institute. Vous allez assister au webinaire du 12, du 19 et du 26 novembre, si j'ai bien. C'est bien ça, non? Voilà.
Oui, c'est chaque jeudi de novembre.
Voilà.
Et ça peut se voir en direct ou en différé.
En différé aussi. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous.
Merci.
Et puis, prenez soin de vous et au plaisir de vous réentendre.
Bien sûr. Au revoir, madame, et merci.
Merci beaucoup, madame Turgeon. Merci.
Au revoir.